Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, spécial J-4 avant la quille. Oui, les vacances approchent. Et je sais, chers auditeurs, que l'alléchante perspective des barbecues, parties de pétanque et autres piscines de rosée ne suffit pas à guérir cette sournoise nostalgie qui vous saisit. À l'idée que nous allons bientôt plus nous retrouver chaque matin. On a bien ri ensemble. Il faut dire que je suis très drôle. Et quand je ne le suis pas, j'ai un truc pour que ça passe inaperçu. Oui, je peux vous le dire maintenant. Quand j'ai honte d'une vanne qui était vraiment pourrie, juste après, je me mets à chanter un truc très aigu pour détourner l'attention et ne pas laisser le beat s'installer. Et la gestion de crise en humour, c'est tout un art. Après avoir rencontré son mari, elle décide de le suivre dans le Cantal et de reprendre une maison de confiture. Les murs étaient en confiture ?
C'est une question de feeling.
Heureusement, tout ça est bientôt fini. Debout les copains, c'est aussi Fabrice Dalméda, avec une très grosse voix. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin reviendra sur la rétrocession de Hong Kong à la Chine. C'était un 1er juillet 1997, et ce, après un siècle et demi de colonisation britannique.
Merci d'écouter Europe 1 en ce début de semaine. Et très bon réveil, il est 6h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce 1er juillet. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin François.
Le contrôle technique un peu plus pointu, le gaz moins cher, les allocations chômage qui augmentent légèrement. On vous détaille tous les changements qui vous concernent en ce 1er juillet dans une seconde. Comment éviter que les ressources en eau ne s'épuisent dans 30 ou 50 ans? Eh bien on paiera peut-être bientôt plus cher l'eau du robinet en été qu'en hiver. C'est une des mesures qui sera annoncée aujourd'hui. Et puis des vigiles qui scrutent la Grande Bleue sur des miradors. Voilà à quoi ressemblent les plages de Sousse en Tunisie. Notre reporter est sur place 4 ans après l'attentat qui avait fait 39 morts.
Europe 1.
On a décidé d'être pratico-pratique ce matin en vous expliquant les différents changements qui interviennent en ce 1er juillet. Changements administratifs ou de tarifs, alors tendez l'oreille ou prenez un carnet et un stylo. Anne-Laure Jumet vous dit tout ce qu'il faut savoir.
Si vous devez emmener votre voiture au contrôle technique, sachez que les modalités évoluent pour les véhicules diesel vendus entre 2004 et 2015. L'objectif, c'est de lutter contre les particules fines. La mesure qui devait s'appliquer au 1er janvier dernier a été reportée de 6 mois en raison du mouvement des Gilets jaunes, d'autant qu'elle entraîne un léger surcoût de 2-3 euros pour les propriétaires des véhicules concernés. Deuxième changement pour les automobilistes qui circulent dans et autour de Paris. Les voitures équipées d'une vignette critère 4 ne pourront plus circuler dans la capitale du lundi au vendredi de 8 à 20 heures. Et puis dans la zone située à l'intérieur de la 86, ce sont les vignettes critère 5 et les non classés qui n'auront plus droit de citer. Pas de verbalisation pour l'instant, les policiers feront des contrôles et de la pédagogie auprès des contrevenants. Voilà pour les automobilistes. Du nouveau aussi pour les demandeurs d'emploi, les allocations chômage progressent très légèrement, plus 0,7%. Et puis pour les foyers qui ont le gaz, une bonne nouvelle avec une baisse des tarifs réglementés de 6,7%. Pour une maison de 100 mètres carrés chauffée au gaz, cela représente une baisse de 80 euros par an.
Anne-Laure Jumet, une autre nouveauté de ce lundi 1er juillet, c'est le retour de l'encadrement des loyers à Paris. À partir d'aujourd'hui, les nouveaux baux, n'est-ce pas, un bail des baux, et ceux qui sont renouvelés
très pratico-pratique ce matin,
ne doivent pas dépasser une certaine fourchette de prix en fonction du quartier et de la date de construction du logement. Les fraudeurs n'ont qu'à bien se tenir. Les ministères de l'Intérieur et de l'Économie mettent en place une nouvelle police fiscale, 250 agents et une sous-direction spécialement dédiée à la criminalité financière, car celle-ci est en pleine explosion. Guillaume Biais.
Corruption, fraude fiscale, blanchiment, il n'y a jamais eu autant d'infractions financières commises en France. Plus 20% depuis 5 ans, plus de 400 000 faits rien que l'an dernier. Alors pour faire face à cette masse considérable de dossiers, pour enquêter plus vite et plus efficacement, la police judiciaire crée une sous-direction de la lutte contre la criminalité financière. Plus de 200 enquêteurs spécialisés, avec à leur tête un homme dont la parole est rare et les dossiers ultra sensibles, Thomas de Ricolfis, jusqu'ici patron de l'Office anticorruption.
C'est une priorité de lutter contre cette forme de criminalité parce que la délinquance financière, vous ne la voyez pas, elle est silencieuse et les préjudices sont très importants. Quand on pense à un chef d'entreprise qui rachète une entreprise en difficulté et qui revend tous ses actifs, ça peut se terminer au final par des gens qui sont au chômage. Donc tout l'enjeu pour un service de police et d'où la création de cette sous-direction, c'est d'accentuer notre répression, notre action contre cette forme de criminalité.
Agir plus vite, plus fort, devenir la référence dans la lutte contre la criminalité financière, c'est l'ambition de cette nouvelle sous-direction de la PJ, qui va aussi s'appuyer sur des analystes, des experts en informatique et sur la plateforme d'identification des avoirs criminels pour mieux débusquer l'argent caché issus de la fraude ou du blanchiment.
Les informations de Guillaume Biet. Ma place n'est plus dans la vie politique partisane, définitivement, c'est assez clair, et c'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy hier soir sur France 2. Son nouveau livre intitulé « Passion » n'est donc pas une façon de refaire surface politiquement.
Europe 1, 6h04.
C'est peut-être la ressource naturelle la plus précieuse, on a encore pu le vérifier ces derniers jours.
Nous parlons de l'eau, dont les ressources sont sous la menace de plusieurs risques. Les assises de l'eau se concluent ce matin et le gouvernement annoncera 20 mesures concrètes qui pourraient changer notre utilisation de l'eau dans les années qui viennent. Explication de Laure d'Autriche.
Dans 30 ans, il y aura jusqu'à 40% d'eau en moins dans les fleuves, les rivières et les nappes phréatiques, assurent les scientifiques, et cela à cause de la sécheresse, du réchauffement climatique. Cela aura un impact sur notre consommation d'eau. Voilà pourquoi des mesures seront prises pour inciter à moins prélever d'eau. Les villes pourront être autorisées à moduler le prix de l'eau. L'eau pourra coûter plus cher l'été que l'hiver pour inciter à une économie plus importante. Il y a aussi de gros efforts à faire pour réutiliser davantage les eaux usées. Aujourd'hui, dans les stations de lavage de voitures, on utilise de l'eau potable pour le nettoyage. Cela pourrait être évité, glisse-t-on au ministère de l'Écologie. Et chez les particuliers, l'eau des toilettes est encore trop souvent de l'eau potable, explique le ministère. Enfin, l'accent sera mis sur la préservation des zones humides. Dans les 3 années qui viennent, 25 000 km de cours d'eau et de rivières seront restaurés à travers la France.
Laure d'Autriche pour Europe 1. Toujours la vigilance orange à la canicule pour 32 départements du sud, de l'est et du massif central. C'est aujourd'hui que les collégiens en classe de 3e passent leur examen du brevet initialement prévu la semaine dernière, mais reporté justement à cause des fortes chaleurs. Les personnels des maisons de retraite et les travailleurs qui font de l'aide à domicile sont appelés à une journée d'action. Aujourd'hui, ils dénoncent les conditions de travail très difficiles qui ne sont pas compensées par les salaires. Des rassemblements sont prévus dans plusieurs régions ainsi que devant le ministère de la Santé à la mi-journée à Paris.
La Tunisie se remet de l'attentat de jeudi qui a fait 1 mort et 8 blessés dans la capitale Tunis.
L'attaque était ciblée contre la police. Les autorités se veulent rassurantes pour ce qui est des zones touristiques. D'ailleurs, tout est fait pour la sécurité des vacanciers sur le littoral, notamment à Sousse, attaqué il y a 4 ans. Notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini s'est rendu à l'hôtel où un tireur avait fait plusieurs dizaines de morts.
Tout au long de la mer au-dessus des transats, des hommes postés sur des miradors scrutent l'horizon pour éviter une nouvelle attaque venue du large. Curieuse ambiance pour passer ses vacances, mais cela ne semble pas déranger Patricia.
Sur la plage, il y a des patrouilles de police qui passent régulièrement, à pied et en 4x4. Il y a une sécurité des sacs à main à l'entrée et on passe dans un scanner donc, comme à l'aéroport. Donc ça, je pense que c'est dissuasif.
L'hôtel est plein depuis avril, en surbooking même, selon l'un des responsables qui l'admet. Tout a été fait pour gommer ce mauvais souvenir. Piscine modifiée, établissement rebaptisé. Seule une discrète stèle placée près des tables de ping-pong rappelle à Manu ce qu'il s'est passé ici.
Je savais que ça s'était passé sur cette plage, mais je ne savais pas que c'était dans cet hôtel même. Je ne veux pas dire qu'on n'y pense pas. Si, on y pense à ce qui s'est passé, on se dit quand même. On n'est pas à l'abri qu'un bateau fou arrive et... Ces pays sont instables, on sait très bien que de toute manière, la moindre petite étincelle peut faire basculer d'un côté ou de l'autre.
Il garde ça dans un coin de sa tête, mais pour l'instant, sa priorité, c'est de gagner sa partie de pétanque. Sous Jean-Sébastien Soldaï. Europe.
Ça faisait 31 ans que ça n'était pas arrivé. Des navires baleiniers japonais ont pris la mer cette nuit pour leur première mission de chasse commerciale. Cela fait suite à la décision du gouvernement nippon de renoncer à ses engagements. Le Japon justifie la chasse à la baleine par l'argument culturel et la tradition ancrée depuis le 12e siècle.
Merci, c'était le journal de François Geffrier.
Europe 1. Il est 6h07, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Ce matin, Fabrice Dalméda reviendra sur la rétrocession de Hong Kong à la Chine. C'était un 1er juillet 1997. C'était après 1,5 siècle de colonisation britannique.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
C'est l'heure de faire un point sur le temps du jour. Céline, ciel mitigé ce matin.
Oui, c'est vrai, avec beaucoup de nuages. C'est même bien couvert dans le sud-ouest et près de la Manche. Mais là, c'est plutôt sec. Pour les autres, on pourra avoir une petite averse orageuse dans la matinée. Soleil qui va revenir largement cet après-midi avec encore un risque d'averse pour la moitié sud. Surtout, et des orages sur les reliefs. Le soleil qui sera déjà très présent près de la Méditerranée ce matin. Côté température, c'est encore chaud. Du nord-est au sud-est avec toujours 32 départements vigilance orange canicule, ça devrait modifié. J'accueille depuis tout à l'heure, ça devrait se modifier cette vigilance. Ça va rester chaud dans le sud-est toute la semaine.
Mais vous avez vu déjà, parce que quand même à 6h09, ça paraît un petit peu tôt pour attaquer au rhum.
30 à 38 degrés, vous voyez, pour le rhum, c'est pas mal ça. 30 à 38 degrés, c'est les valeurs du nord-est au sud-est. Pour les autres, on revient à des valeurs de saison, 25 à 30 degrés, il en fera 26 à Paris aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et Eva Rock.
Oui, il semble qu'on ne soit pas, qu'il n'y ait pas que Céline Dacosta qui est picolée.
Vous
parce
aussi.
Que,
bah, vous
aussi.
N'ai rien bu.
Bah, vous aussi, c'est vous qui avez posé la question sur le naturisme.
Non, c'est vous qui en avez parlé dès
14h57. Oui, vous aviez déjà prévu votre question. N'essayez pas de noyer le poisson. Alors, dites-nous ce que vous avez
à nous
dire.
On vient de recevoir un message d'André sur Twitter avec le hashtag Europe 1 qui nous dit « C'est bizarre votre histoire parce que, effectivement, l'an dernier, la journée mondiale du naturisme, c'était bien le 1er juillet, mais cette année, c'est le 7 juillet.
Bon, » Oui, alors non. André, écoutez-moi.
Je vous lis la baseline de l'affiche « Laissons tomber le maillot et fêtons le naturisme. »
Voilà. Allez, André, de toute façon, oui. Ça n'a aucun sens. Parce que si c'était le 7 juillet, oui. Je ne suis plus à l'antenne le 7 juillet.
Oui. Aucun sens.
Donc ça n'aurait aucun sens. On ne peut pas faire une journée du naturisme sans moi, vous êtes d'accord, André ?
Pourquoi vous faites du naturisme ? Je m'en souviens pas.
Non, mais en tout cas, pour en parler, c'était évidemment cette semaine
dernier,
qu'on allait le faire.
Votre maillot,
donc
hein.
Ça nous arrangeait bien que ça tombe aujourd'hui.
Voilà.
Merci à tous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À l'heure d'accueillir notre expert sportif, Jérôme Lacroix, dit GG les bons tuyaux, j'aimerais vous rappeler son pronostic pour le quart de finale France-États-Unis de vendredi soir.
Mais qu'est-ce qui va se passer ? On va se qualifier.
Une fois de plus, notre GG a eu le nez creux. Voici Jérôme Lacroix pour le Journal du Mondial.
La Coupe du Monde féminine,
l'événement foot est sur Europe 1.
Au sommaire ce matin, Jérôme.
Lyon, épicentre du foot mondial au féminin. Les deux demi-finales et la finale s'y tiennent jusqu'à dimanche. Premier affrontement pour une place de finaliste États-Unis-Angleterre demain. Des milliers d'Américains ont déjà débarqué dans le Rhône.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
Bienvenue à bord d'un bus de la délégation de l'équipe américaine. Des proches, des joueuses, les amis, la famille, vidéo postée sur Twitter par la fédération. Et pour tous ses proches, direction Lyon, ville théâtre des demi-finales et de la finale. Première demi-finale demain, États-Unis-Angleterre. Et les supporters américains sont déjà bien arrivés à Lyon. 17 000 sont attendus dans la capitale des Gaules d'ici dimanche, la finale. Pour le match de demain, par exemple, ils ont acheté le tiers des places disponibles. Alana sera au stade demain, elle vient de New York.
Il y a vraiment une bonne présence américaine. C'est marrant, si vous essayez d'avoir une chambre d'hôtel maintenant, c'est quasiment impossible. Tout est pris. On a plein d'amis qui viennent des États-Unis pour assister au match. C'est chouette.
Et les joueuses américaines sont elles aussi arrivées à Lyon samedi et hier, elles se sont entraînées au Groupama Stadium.
Un stade, une ville que certaines joueuses américaines connaissent bien.
Notamment les deux superstars, Megan Rapinoe et Alex Morgan, qui ont joué à l'Olympique Lyonnais, toutes les deux. Lyon, l'un des meilleurs clubs du monde, 6 fois titré en Ligue des Champions. Alex Morgan, par exemple, qui a posté sur les réseaux sociaux une photo d'elle hier, place Bellecour. L'homme à l'origine de leur venue, c'est Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. Rapinoe, Morgan, de vraies stars, symbole d'un savoir-faire américain.
Les États-Unis ont cette vertu de mettre en avant véritablement un système où la promotion va avec la performance. Et du coup, on a des personnalités exceptionnelles. Donc que ce soit Megan Rapinoe ou Alex Morgan, qui sont des stars dans leur pays. Et elles expriment, on le voit d'ailleurs actuellement, tout haut ce qu'un certain nombre de personnes pensent tout bas.
Megan Rapinoe, et oui, chantre de l'anti-Trump, c'est ce que veut dire le président Aulas. Rapinoe qui ne chante pas l'hymne national pour protester contre la politique de son président et qui a récemment annoncé qu'elle n'irait pas à la Maison-Blanche pour une éventuelle récompense en cas de nouveau titre de championne du monde. En revanche, elle irait bien visiter la Chambre des représentants à Washington. Elle a répondu favorablement à l'invitation via Twitter d'Alexandria Ocasio-Cortez, l'étoile montante des démocrates. États-Unis-Angleterre demain 21h et seconde demi-finale mercredi soir à la même heure, Suède-Pays-Bas avec eux. Les supporters néerlandais, une nouvelle vague orange attendue à Lyon à ces fans hollandais qui ont pour l'instant, comme vous l'entendez ici, enchanté toutes les villes où leurs ouailles ont joué.
Merci beaucoup, c'était l'avant-avant-avant-avant-dernier journal des sports de Jérôme Lacroix. L'émotion déjà nous inonde. Et l'inondation va aller crescendo au fil de la semaine, notamment pour Fabrice Dalméda, le monsieur histoire d'Europe 1, qui avait su tisser avec Gégé ce que nous aimerions pouvoir qualifier de saine amitié virile, mais bon, c'était peut-être un peu plus que ça, souvenez-vous.
Oui, Jérôme, c'est toi. Non, tu n'as pas changé.
Mais je n'ai pas changé.
Tu es toujours celui qui m'a aimé.
Celui qui t'a aimé, oui.
Ça va, on vous dérange pas, les gars.
Passe à la rubrique histoire.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Delmeda.
Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Hong Kong célèbre le 22e anniversaire de sa rétrocession à la Chine, l'occasion d'une nouvelle manifestation contre les pressions du gouvernement chinois. Mais d'où vient cette exception démocratique au sein de la dictature chinoise?
Il faut rappeler, c'était le 1er juillet 1997, à minuit une minute très précisément, Hong Kong, sa péninsule, ses îles et ses nouveaux territoires revenaient à la Chine. Ainsi s'achevait la présence pendant plusieurs siècles, la présence anglaise, car tout a commencé en 1699, quand la Compagnie britannique des Indes orientales s'est installée dans ce havre de paix, à l'abri des tempêtes. C'était une petite ville, un comptoir d'échange. Mais tout a changé grâce à une drogue, l'opium. La compagnie en produit en masse en Inde, puis l'écoule avec de larges bénéfices en Chine. Pour le gouvernement impérial, l'opium devient l'ennemi. Il décime et ruine sa population. Il faudra deux guerres de l'opium entre 1839 et 1860 pour contraindre les Chinois à continuer leurs importations et donner Hong Kong en concession aux Britanniques. Et d'ailleurs, la fortune de Hong Kong vient de là.
Et alors, comment s'est développée cette ville?
D'abord, elle a accueilli des commerçants anglais, puis des banquiers s'y sont installés. Et la tutelle britannique a même fini par être extrêmement rassurante, en particulier au moment où la Chine traverse des troubles graves, en 1900 par exemple, avec la révolte des Boxers, et puis même jusqu'à la création de la République populaire en 1949. Dans ce cadre, les habitants ont finalement pris goût à la liberté d'expression et au multipartisme.
Et comment la Chine s'est-elle prise pour récupérer ce territoire?
La Chine communiste a toujours contesté les traités de concession au Royaume-Uni, car il l'a considéré comme inégalitaire. Et la concession pour les nouveaux territoires arrivait précisément à terme. Donc, pour rassurer les habitants, Deng Xiaoping, le secrétaire du Parti communiste chinois, a lancé la fameuse doctrine « un pays, deux systèmes ». En gros, Hong Kong serait au sein de la Chine communiste un îlot capitaliste. Margaret Thatcher a cru cette fable et elle a cédé en 1984, d'où finalement la restitution du 1er juillet 1997 que nous célébrons aujourd'hui.
Et depuis ?
Depuis, le gouvernement chinois ne cesse ses pressions pour remettre cette province au pas. Et cela, les Hongkongais ne veulent pas l'admettre. Ils manifestent pour défendre les libertés qui en réalité fondent leur identité.
Merci beaucoup Fabrice Delmeda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités pour l'analyser. On le disait, pour beaucoup d'entre vous, les vacances se profilent, mais je suis sûr que certains tatelaires n'ont pas encore réservé leur billet de train ou d'avion.
Petit coquin.
Oui, bon, il n'est pas trop tard, petit coquin. Quelles sont les destinations stars de l'été ou partir en dernière minute? À 6h20, Patrick Visseria, expert du marché du tourisme, prodiguera ses bons conseils. Vous, Eva, c'est bon, vos vacances sont bookées?
Eunotourisme.
Oui, pardon, question idiote.
Il est 6h17, très bon réveil sur Europe 1. Il est 6h18, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le préfet de police de Paris devra rendre des comptes sur une évacuation musclée de manifestants écologistes vendredi. Alors qu'ils étaient assis sur la route, des policiers les ont aspergés de gaz lacrymogène. Le ministre Christophe Castaner demande un rapport. Les voitures portant une vignette critère 4 ou 5 ne peuvent désormais plus circuler dans Paris entre 8h et 20h. Rien à voir avec la canicule, c'est une mesure définitive contre les véhicules les plus polluants. Enfin, les employés de service à la personne et les personnels de maisons de retraite se mobilisent aujourd'hui pour obtenir plus de moyens. Tous les syndicats appellent à une journée d'action. Ils dénoncent les manques d'effectifs pour prendre soin des personnes âgées.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce lundi 1er juillet. Et l'actualité, c'est aussi, bien sûr, les grandes vacances qui débutent à la fin de la semaine pour beaucoup et qui lancent la saison touristique. Mais quelles sont les destinations à la mode? Et est-ce qu'il y a encore temps de trouver une destination à bon prix? La France va-t-elle attirer des touristes cette année? Bonjour Patrick Visseria.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes expert du secteur du tourisme. Vous dirigez le cabinet Détente Consulting. Alors déjà, si je veux éviter de rencontrer trop de Français cet été, où ne pas aller? Parce que ça, c'est...
Alors,
on est partout. Hein.
Sûrement pas Cuba, par exemple, où il y a beaucoup de Français qui vont cet été, parce que c'est une destination très attractive, disruptive, et puis avec des prix très, très intéressants.
Ah, les prix sont intéressants pour Cuba. Et
Les prix sont très intéressants à Cuba, donc, mais plus près de nous, le Maghreb. Hein, mais là, vous allez retrouver quand même beaucoup de Français, qu'avec ce qui vient de se passer, il faudra regarder les impacts, en fait, de l'attentat, parce qu'on a depuis quelques années une reprise en fait des pays du nord de l'Afrique et puis de l'Europe, c'est très classique, Europe du Sud, donc on est attiré par le soleil qu'on a déjà ici en ce moment.
Oui, c'est ça que j'allais vous dire. Alors moi, très naïvement, j'aurais pas dit le Maghreb pendant l'été, parce qu'il doit faire une chaleur intense là-bas.
Alors effectivement, il fait chaud, mais on a eu un peu une avant-première de ce que c'est que les vacances, et c'est bientôt, donc on a plutôt tendance à rechercher la mer, le soleil, en famille, entre amis. Tout ça est très classique dans toutes les enquêtes depuis 20 ou 30 ans. C'est ce qui ressort le plus.
Il n'y a pas de nouveauté cette année? Il n'y a pas une nouvelle destination?
Alors, oui,
qui sort du lot?
Dans les nouveautés, on a quand même des nouveautés. Bon, le Portugal qui est vraiment très fort, qui va très fort actuellement. Tous les pays, la Croatie, les anciens pays de la Yougoslavie et l'Italie. Et l'Espagne, bien sûr, les îles espagnoles qui attirent beaucoup de monde, Ibiza par exemple, ou bien Venise par exemple, où il y a beaucoup de touristes.
Presque
faut savoir
trop,
qu'à Venise.
Ouais. Presque trop de touristes à Venise, non?
Voilà, je vais vous dire, l'association des experts du tourisme justement a organisé un colloque sur le surtourisme et on a été obligé de mettre en place un péage certains jours à Venise, tellement il y a de touristes. Mais c'est le cas aussi en Corse, par exemple. En Corse, on a arrêté de communiquer sur le GR20 parce qu'on s'est aperçu que le GR20 attirait trop de monde. Donc voilà, c'est des situations qu'il faut observer.
Si on doit donner un conseil à nos auditeurs, peut-être éviter Venise en été, donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour visiter Venise.
Oui, c'est sûr, avec des prix qui sont très élevés.
En plus des prix, Alors, on regarde des premières réservations. Est-ce que la saison touristique 2019 s'annonce favorable pour les professionnels?
Alors, on pense que la saison 2019 donc, va être un bon cru, en fait, parce que y a eu un peu de pouvoir d'achat qui a été distribué. Donc, ça devrait favoriser quand même la consommation. La situation économique est plutôt meilleure et donc quelque part ce sont des facteurs qui incitent à partir. Donc on le voit aujourd'hui sur les prises de réservation, que ce soit sur le court séjour, sur le long séjour marchand ou non marchand. Donc on voit quand même que les parents et amis, résidents secondaires, tout ça, ça marche très très bien. Mais l'année devrait être effectivement une bonne année. À voir aussi quelle météo on aura, parce que vous savez qu'on a une activité extrêmement dépendante de la météo.
Alors, il y a ceux qui cherchent la chaleur, mais il y a ceux aussi qui cherchent la fraîcheur. Est-ce que ce début d'été qui est marqué par les fortes chaleurs, est-ce que ça profite à certaines régions, là je parle à l'échelle de la France, au tourisme vert, rural, au tourisme en montagne peut-être? Est-ce que...
Alors, les Français recherchent avant tout la mer, le bord de mer.
Je suis vraiment atypique, moi. Personne ne recherche la fraîcheur.
Reste... Voilà. Mais il y a quand même une clientèle qui recherche la fraîcheur. D'ailleurs, on le voit sur la dynamique des pays du Nord. Je pense à toute la Scandinavie.
Les fjords norvégiens, ça doit être beau.
Tout à fait. Ou à l'Islande, au Canada, par exemple, qui attire beaucoup de monde. Donc, oui, il y a une clientèle, mais on recherche quand même plutôt la chaleur, la mer. Et on voit, je commençais par des destinations tropicales, que les Antilles, les destinations d'Amérique du Sud attirent beaucoup de monde.
Pour ceux qui hésitent encore, c'est un peu tard, mais on est à une semaine. Est-ce qu'il y a encore des bons plans de dernière minute?
Alors oui, justement, je me suis penché hier pour vous sur les sites et je regardais. En fait, il y a plusieurs façons de partir. Il y a ceux qui savent où ils veulent aller, et puis il y a ceux qui savent pas où ils veulent aller. Ceux qui savent où ils veulent aller, ils peuvent faire ce qu'on appelle de la première minute, c'est-à-dire acheter dès que le produit y sort, ou se mettre une alerte. Par exemple, vous voulez aller partir avec votre conjoint ou vos enfants en Égypte. Vous allez vous mettre sur un certain nombre de sites d'alerte qui vont vous dire, voilà, il y a de la place. Ça, c'est ceux qui partent au début.
C'est la bonne stratégie.
Et puis les autres, la dernière minute donc, qui a eu tendance à se développer, c'est 5 jours avant le départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
On est bien.
Vous êtes peut-être dans ce cas.
Oui.
Donc, il y a un tiers des Français, en fait, qui réservent 5 jours avant de partir. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il soit un peu moins exigeant. Par exemple, vous voulez une chambre ou un appartement avec vue sur mer, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué.
Mais vous pouvez faire de très bonnes affaires. Et je regardais, par exemple, vous avez du Djerba à 619 euros chez Probo Vacances. Vous avez du Punta Cala, donc en République Dominicaine. Ou bien l'Afrique du Sud, j'ai vu aussi que c'est des tarifs très intéressants.
Ah ben ça peut m'intéresser, vous donnerez.
Voilà, et puis si vous aimez le luxe dégriffé, vous avez Voyage Privé, donc qui propose aussi des promotions qui sont intéressantes. Et vous avez même aujourd'hui des sites d'ultra dernière minute, comme partirdemain.com, par exemple, qui vous propose vraiment, vous voulez partir demain, il n'y a pas de problème, il y a encore de la place, des tarifs intéressants partout.
Eva, on part. Alors,
justement, plus de 8 Français sur 10 réservent leurs vacances sur Internet. Est-ce que ça permet de mieux faire jouer la concurrence des prix?
Alors, c'est ce qui a basculé. En fait, en principe, on trouve les meilleurs prix sur Internet. Sauf que ça devient, avec toutes les offres qui sont proposées, les tarifs, tout ça, on a l'impression qu'on va trouver tout de suite la meilleure affaire. En fait, c'est compliqué de réserver sur Internet.
Il faut y passer beaucoup de temps.
Alors, ça dépend des générations, ça dépend de la façon dont on utilise Internet. Mais globalement, il y a de plus en plus de gens qui réservent sur Internet. Mais il y a quand même un cinquième des Français qui partent, qui vont utiliser une agence de voyage.
Et
pour 20 euros aujourd'hui, on peut utiliser un conseiller voyage dans une agence et se simplifier la vie.
Un dernier mot, Patrick Husserin, sur l'avenir du tourisme. Quelles sont les tendances que vous avez repérées pour les années qui viennent?
Alors, oui, il y a des tendances qui commencent à se dessiner. Bon, il faut prendre en compte le vieillissement de la population, hein, donc qui va être très fort, puisqu'il va y avoir 4 à 5 millions de personnes âgés, entre guillemets, ou de seniors qui consommeront en 2030. Donc. Et puis aussi, toutes les contraintes environnementales et écologiques qui sont très fortes. Et peut-être qu'on va assister, dans certains cas, au développement d'offres de plus grande proximité. Qui prennent, je vois aujourd'hui quand on travaille sur un équipement de loisirs, on travaille plus sur les impacts environnementaux à la limite que sur l'équipement lui-même. Par exemple, je citais tout à l'heure les vagues de surf, donc il y a une tendance aujourd'hui qui est de créer des équipements urbains de loisirs qui peuvent être utilisés par des habitants et des touristes. Voilà, c'est une des tendances.
Merci beaucoup Patrick Visserer. Je rappelle que vous êtes directeur dit général du cabinet Détente Consulting. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1.
Merci.
Europe 1. Il est 6h27, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec le dandy du news, l'Oscar Wilde de l'info, David Doucan. Et puis la météo, très chaud dans le sud-est, mais des orages sont à prévoir cet après-midi sur les reliefs.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Et Céline, la chaleur fait de la résistance dans le sud-est.
Oui, on va commencer par ce qui nous a préoccupés ces derniers jours. Les températures élevées, la canicule qui se poursuit dans le sud-est avec des valeurs cet après-midi comprises entre 30 et 38 degrés. Ça va rester chaud aussi entre le nord-est et le centre-est. Hein, 32 degrés à Strasbourg jusqu'à 36 degrés. Encore cet après-midi à Lyon. Partout ailleurs, on va revenir à des températures de saison. 25 à 30 degrés. Il en fera 26 à Paris, 28 à Bordeaux. Puis ça restera plus frais depuis bientôt 10 jours maintenant, près des côtes de la Manche avec 18 à 21 degrés seulement. Et puis ce matin, 12 degrés à Caen, 16 à Orléans, 21 à Toulouse, encore 24 à Montpellier et même 27 degrés du côté de Nice en ce moment.
Voilà pour la chaleur. Et qu'en est-il du ciel?
C'est couvert un peu partout ce matin, bien couvert dans le sud-ouest, nuages éclaircis pour les autres avec un risque d'ondées, peut-être même orageuses. Un petit peu de vent d'ouest aussi sur la moitié nord. Soleil en revanche dès ce matin sur les Pyrénées, la région PACA, le sud de la région Rhône-Alpes et la Corse. Et puis cet après-midi, il va revenir assez largement de la Bretagne, Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes, le soleil. Il reste présent près de la Méditerranée, principalement sur les côtes. Et pour les autres, ce sera un petit peu plus mitigé. Nuages, éclaircies, encore des petites averses et des orages qui seront concentrés sur les reliefs et qui seront parfois violents, surtout entre le Massif central et les Alpes.
Merci Céline.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, dernière représentation avant fermeture estivale. Samedi prochain, peu importe les prévisions de Bison Futé, on prendra la route sur la 4. Certains se plieront de bonne grâce au contrôle de la marée chaussée. D'autres, comme David Doucan, s'y refuseront, déclarant...
Absolument. C'est-à-dire que je ne fais pas l'éthylotest.
Parler de démobilisation serait toutefois excessif, notamment justement pour David Doucan, présentateur émérite du journal de 6h30, dont le zèle et l'implication professionnelle demeurent intacts en cette fin de saison.
Tu sais si on dit Thomas Harris ou Thomas Harris tu... Toi qui es cultivé. Mais trouve quelqu'un de cultivé, là. Très vite. Très, très vite. Il reste 26 secondes.
Moins que ça, David. C'est à vous, déjà.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Attention au contrôle technique si vous roulez au diesel. Les règles changent à partir d'aujourd'hui. Plus drastiques pour lutter contre la pollution. Quel impact sur le portefeuille des automobilistes? La réponse dès le début de ce journal. Journée de mobilisation des personnels de maisons de retraite et d'aide à domicile. Manque de moyens, conditions de travail difficiles. Le secteur de la dépendance est en crise. Témoignage dans un instant. Et puis, elles sont éliminées de la compétition, mais pas du cœur des Français. Avec leur parcours jusqu'en quart de finale, les Bleus ont créé l'engouement. Elles ont changé le regard sur le foot féminin et créé des vocations. Reportage dans cette édition.
Europe 1.
Baisse des tarifs du gaz, retour de l'encadrement des loyers à Paris, limitation des frais, bancaires pour les plus fragiles. Beaucoup de choses bougent en ce 1er juillet, également pour les conducteurs de véhicules diesel, avec un contrôle technique renforcé afin de mieux lutter contre les particules fines. Cette mesure devait entrer en vigueur le 1er janvier, mais la crise des gilets jaunes avait poussé le gouvernement à reporter de 6 mois, parce que, bien sûr, il y a un impact sur la facture. Aurélien Fleurot.
Un peu plus d'un an après la mise en place du nouveau contrôle technique, le surcoût moyen observé est de 12% en moyenne selon les centres. Alors ajouter une nouvelle norme anti-pollution, l'hiver dernier, cela tombait on ne peut plus mal, se souvient Franck Fitan, directeur d'un centre AutoSure en région parisienne.
Moi ici dans ce centre, par exemple, j'ai 2 pistes de contrôle, donc 2 appareils de pollution. Donc les tarifs auraient dû effectivement légèrement augmenter pour les véhicules diesel au moins au 1er janvier. Maintenant, effectivement, avec la grogne des gilets jaunes, je pense que dans pas mal de centres, on a été tolérant et on n'a pas augmenté nos tarifs. En tout cas, c'est le cas ici.
L'idéal pour éviter les mauvaises surprises le jour J, c'est d'anticiper avec un entretien régulier de sa voiture des révisions que propose Avatacar, explique Julien Partamian, directeur e-commerce du site.
On contrôle quand même tous les organes vitaux du véhicule et donc on peut identifier, déceler déjà un certain nombre d'anomalies. Vous évitez tout ce qui va pouvoir déclencher les fumées qui vont être contrôlées maintenant, l'émission trop forte de fumée ou de gaz sur le véhicule. Vous avez beaucoup plus de chances de ne pas être retoqué au contrôle technique.
Ce qui change à partir d'aujourd'hui cible donc les particules fines et devrait augmenter la facture de 2 à 3 euros en moyenne.
Aurélien Fleurot du service économie d'Europe 1. Notez aussi qu'à partir d'aujourd'hui, les véhicules les plus polluants sont tout simplement interdits dans plus de la moitié des communes du Grand Paris, dont la capitale. Les diesels de plus de 18 ans, les moteurs à essence de plus de 21 ans sont désormais proscrits d'un vaste périmètre qui couvre 49 des 79 communes de la métropole parisienne. Les véhicules avec vignette 4 ou 5 sont concernés. Et dans la capitale, intramuros, si vous avez une vignette 4, désormais, à partir d'aujourd'hui, circulation interdite entre 8h et 20h en semaine. Par ailleurs, nous venons de l'apprendre, puisque les constructeurs rendent public ce chiffre, le marché automobile français est en baisse de 8,4% au mois de juin. Ils vont manifester devant le ministère de la Santé parce que les moyens manquent, parce que les conditions de travail sont pénibles, parce que leur métier ne crée plus de vocation. Il est pourtant indispensable. Je vous parle des personnels des maisons de retraite et de l'aide à domicile pour nos aînés et nos concitoyens dans la dépendance. Il y a urgence. Écoutez le témoignage de Corinne à Tourcoing qui a besoin de ses aidants pour s'occuper de sa mère de 93 ans.
Une auxiliaire de vie devait venir le soir pour donner à manger à ma mère et ensuite la mettre au lit parce qu'elle est incapable de se lever et de se déplacer seule. Et en fait, donc, ma mère a passé sa nuit dans un fauteuil et c'est l'infirmière qui vient tous les jours pour faire la toilette le matin et donner les médicaments qui s'en est aperçue et qui m'a prévenue, bien sûr. Et ensuite, il y a une ou deux fois où le problème s'est reproduit pour les repas le midi. Donc là, ma mère n'a pas mangé, évidemment, et on s'en est aperçu l'après-midi en passant. Il y a aussi de très jeunes filles dans les intervenantes. Hein. Il y en a qui ont, je pense, 18-19 ans, qui, à mon avis, manquent parfois un peu de formation. Et j'ai constaté aussi que beaucoup avaient des contrats courts, hein, ou des CDD. Des jeunes filles qui font ça quelques mois et puis qui ensuite ont un contrat qui se termine parce qu'elles vont faire autre chose.
Témoignage recueilli par Emmanuel Duteil pour Europe 1. La politique maintenant avec un sujet qui ne manquera pas de déchaîner les passions, la dépénalisation du cannabis, thérapeutique seulement, récréatif aussi. Les députés ne s'interdisent pas d'y réfléchir et selon les informations de Virginie Riva, une mission d'information parlementaire va être lancée.
Le but, dépassionner le débat. Et l'objectif est très clair, que la légalisation du cannabis puisse devenir une proposition de la campagne présidentielle de 2022, selon plusieurs députés. Le modèle, c'est Justin Trudeau au Canada, qui l'avait promis durant sa campagne et qui a fait passer une loi une fois élu. En l'état, le débat en France est piégé. Trop de positions dogmatiques, de caricatures, explique un parlementaire. Pendant un an, l'idée, c'est donc de plancher à la fois sur les usages thérapeutiques, de bien-être et les usages récréatifs du cannabis. Personne ne sait ce qu'est le cannabis bien-être, se lamente un marcheur. Il ne contient pas de THC, la molécule euphorisante, c'est une autre molécule. Mais le sujet le plus clivant, c'est bien sûr la légalisation du cannabis récréatif, avec derrière des enjeux de santé publique. Comment calculer par exemple le seuil de consommation pour prendre le volant sans danger? Il y a aussi des enjeux d'ordre public. Un cadre de la majorité le dit sans détour. Aujourd'hui, le cannabis est un stabilisateur des banlieues. Et il se pose la question, faut-il associer à la réflexion des petits délinquants revendeurs si on veut créer à terme une filière économique?
Virginie Riva du service politique d'Europe 1. Pour l'instant, c'est l'impasse. Les dirigeants européens ont négocié toute la nuit sans se mettre d'accord sur la répartition des postes à pourvoir de l'Union européenne. L'hypothèse d'un nouveau sommet a été évoquée par de nombreux diplomates.
À suivre dans ce journal, le portrait de la femme qui défie Matteo Salvini. Elle s'appelle Carola Rackete. Elle a accosté de force pour sauver des migrants. Elle risque 10 ans de prison. A tout de suite.
Il est 6h36. Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal, David Doucan, vous nous parlez de Carola Rackete.
Oui, la capitaine du navire humanitaire Sea-Watch 3, elle a forcé le barrage des cartes-côtes italiens dans la nuit de vendredi à samedi pour accoster à Lampedusa afin de sauver 42 migrants. Elle est désormais en résidence surveillée après avoir été arrêtée et risque jusqu'à 10 ans de prison. Qui est cette jeune femme qui défie Matteo Salvini? Pierre Herbulo.
Applaudi par les uns, hué par les autres, trois jours après son arrestation à Lampedusa, Carola Rackete est devenue le symbole du débat sur la question migratoire. Une criminelle au service des passeurs à qui le Premier ministre italien Matteo Salvini promet la prison. Une héroïne surnommée Capitaine Courage pour qui on lève 1 million d'euros de dons en 48 heures. Pour cette militante allemande de 31 ans, dreadlocks noués derrière la tête, l'aide humanitaire est une vocation, une obligation morale, dit-elle. Quitte à défier les autorités, quitte à forcer un barrage naval militaire, quitte à aller derrière les barreaux, la militante l'avait anticipé après 17 jours d'errance en mer en déclarant « Si nous ne sommes pas acquittés par un tribunal, nous le serons dans les livres d'histoire. »
Pierre Herbulo pour Europe 1. Et puis aussi cette dernière minute, une forte explosion a été entendue et constatée au centre de Kaboul, en Afghanistan. Elles sont parties, mais l'engouement est toujours là. Je vous parle des footballeuses françaises. Elles ont été éliminées en quart de finale, mais leur parcours a changé. Le regard porté sur le foot féminin et a créé des vocations. Reportage à Bordeaux. Stéphane Place.
Un ballon et une paire de crampons que son père vient tout juste de lui offrir. À la sortie de ce magasin de sport, cette collégienne de 14 ans est ravie. Vêtue d'un haut de survêtement aux couleurs du PSG et d'un bas qui porte le logo de Manchester United, Kenza a décidé de faire du foot son sport principal.
C'est vrai que comme j'ai commencé la natation synchronisée il y a longtemps et que je commençais à faire des compétitions, je m'étais pas dit que je ferais du foot aujourd'hui.
Vous regardez un peu les matchs de la Coupe du Monde de foot féminin là?
Tous, même si à côté je regarde quand même des matchs masculins. C'est vrai que pour s'installer dans un groupe de garçons, c'est assez difficile. Une fille comme ça, les garçons, ils vont pas l'accepter dans leur équipe normalement, globalement. Alors que là, les garçons, ils viennent me chercher pour que je joue au foot avec eux et tout ça.
Et le premier supporter de Kenza, c'est son père, tout content de partager avec sa fille la passion du ballon rond.
Des fois, elle joue avec moi.
Est-ce que vous avez l'impression que le fait qu'il y ait une Coupe du Monde de foot féminin a une influence là?
Oui, bien sûr. Il y a un engouement. On en parle. Elle me disait tout à l'heure, il faut que tous les matins, qu'on aille sur un terrain de foot. Les filles sont plus vaillantes que les garçons.
Complicité de cette adolescente et de son papa, lui-même épaté, il le dit, par les qualités techniques des footballeuses de cette Coupe du Monde. Bordeaux, Stéphane Place, Europe.
Et il n'y a pas de match aujourd'hui. La première demi-finale, c'est demain, mardi, avec donc Angleterre-États-Unis à 21h à Lyon. Et l'autre, la seconde demi-finale, se jouera mercredi, toujours à Lyon, à 21h, Pays-Bas, Suède.
Merci, c'était le journal de David Doucan, journaliste doué, mais surtout, surtout lucide. Sa plus grande force, savoir se remettre en cause. Exemple, l'autre jour, on a pu mesurer le travail de réécriture assez incroyable entre son journal de 6h30 et celui de 8h.
Il fait trop chaud pour travailler, voilà pour le slogan.
C'était trop Pulco, trop Pulco citron cherché.
Je le referai pas à 8h, en fait, en le faisant là, je me suis rendu compte que c'était naze.
vous souvenez peut-être, Nikos, du célèbre slogan d'une marque de jus de fruits, il fait trop chaud pour travailler.
Mais...
Tu l'as laissé.
Ouais, mais je l'ai mieux fait.
Il l'a laissé, mais c'était mieux
c'était
dit.
Mieux.
Doucan, c'est l'autre mieux. Nom du perfectionnisme. Bravo, David.
Merci, merci à vous.
Tout de suite, Céline, nous faisons un point sur la météo.
Oui.
Un soleil qui brille encore largement ce matin. Vous avez enlevé la page, je ne sais pas la suite.
Dans
un
le sud-est.
Dans le sud-est, ouais, il brille.
Pardon,
il brille.
J'ai effectivement enlevé la page trop vite. Pour les autres, c'est un petit peu plus mitigé. Nuages éclaircis, ondées parfois orageuses dès ce matin et ciel bien couvert dans le sud-ouest. Du mieux pour cet après-midi puisque le soleil fera son retour sur la moitié nord. Les orages vont se concentrer surtout sur les reliefs et seront parfois forts avec de la grêle surtout entre le Massif central et les Alpes. Quant aux températures, elles sont douces ce matin. Cet après-midi, on revient à des moyennes de saison, 25 à 30 degrés. Il en fera 26 à Paris. Ça reste encore très chaud du nord-est au sud-est avec 30 à 38 degrés. La vigilance qui était de 32 départements en orange canicule a baissé il y a quelques minutes. On est à 13 départements en vigilance orange à présent.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, l'actu sous un autre jour avec un vrai point de vue. C'est ce que vous offre chaque matin, qui plus est gratuitement, les trois fantastiques. Aujourd'hui, Mickaël Darmon mettra les pieds dans le plat en posant la question « À quoi sert le G20 ?» Axel de Tarlet reviendra sur ce nouveau grand traité de libre-échange signé vendredi dernier entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Quant à Eva Rock, il sera question avec elle de vin et de saucisson en compagnie de Philippe Noiret. Pourquoi ne suis-je pas étonné?
Bon réveil à tous, il est 6h42. Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Beaucoup de choses changent en ce 1er juillet. Baisse des tarifs du gaz, retour de l'encadrement des loyers à Paris, limitation des frais bancaires pour les plus fragiles, mais aussi un durcissement du contrôle technique pour les véhicules diesel. Par ailleurs, les conducteurs équipés de vignettes critères 4 n'ont désormais plus le droit de circuler à Paris en semaine entre 8h et 20h. Journée de mobilisation également des personnels de maisons de retraite et d'aide à domicile, manque de moyens, conditions de travail difficiles, le secteur de la dépendance est en crise. Ils manifesteront aujourd'hui devant le ministère de la Santé. Enfin, pour l'instant, c'est l'impasse. Les dirigeants européens ont négocié toute la nuit sans se mettre d'accord sur la répartition des postes à pourvoir au sein de l'Union européenne. L'hypothèse d'un nouveau sommet a été évoquée par de nombreux diplomates.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Dernière semaine de Debout les copains, dernière chance donc pour Céline Dacosta d'intégrer enfin l'espace d'une journée la prestigieuse équipe des Trois Fantastiques. Et il faut reconnaître que Céline donne tout dans cette dernière ligne droite. Lecture du Figaro chaque matin, abonnement aux alertes du Financial Times. Durant la matinale d'Europe 1, elle se passionne aussi pour les invités politiques. Elle ne rate pas une miette de leurs interviews, comme a pu le constater David Abiker en entrant dans le studio jeudi dernier.
C'était bien, Schiappa.
Je suis parti.
Petit effort Céline, ça va le faire. Voici les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Axel de Tarlet pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique et Mickaël, on commence évidemment par vous. La réunion du G20 à Osaka a été occultée par les tensions entre la Chine et les États-Unis. Une question est posée notamment par Emmanuel Macron. À quoi sert encore le G20? Selon le président, il ne serait pas assez utile. Mais pourquoi est-ce qu'il dit cela?
Et oui, on peut se demander pourquoi il dit ça, parce qu'en général, il défend toujours les lieux et les sommets où on se retrouve pour échanger au plus haut niveau. Donc c'est plutôt étonnant. C'est d'ailleurs même faire bizarrement écho à l'approche de Trump, qui en général critique les réunions multilatérales. Donc il faut quand même se souvenir que le G20, au niveau des dirigeants, c'est une idée de Nicolas Sarkozy, qui était donc président de la République en 2008, afin de prendre des mesures entre les pays pour sortir de la crise financière. Les G20 sont devenus des cadres d'engagement sur la base du volontariat pour réguler la finance internationale. D'ailleurs, ça avait donné le sommet fondateur de Washington. Mais avec la fin de la crise, c'est vrai, la question de l'utilité des G20 s'est régulièrement posée, d'autant que le G20 n'est pas un cadre contraignant. Il ne peut pas décider de sanctions. Ce sont des sommets, des lieux de consensus, et c'est devenu un forum de la gouvernance mondiale. Alors effectivement, la sortie du président français est d'autant plus étonnante qu'il a lui-même organisé à Paris un événement purement symbolique, le Forum de la paix pour le 11 novembre dernier, et effectivement c'était symbolique et ça avait donc vocation à se répéter.
Mais alors pourquoi cette critique d'Emmanuel Macron alors que la France accueille le G7 fin août à Biarritz?
Et oui, encore plus étonnant, le G7 effectivement c'est le club des 7 pays les plus riches de la planète. Ben lui, c'est pas non plus une autorité contraignante et ce sera un sommet qui va plutôt définir des problèmes plutôt que d'en régler. Par exemple sur les enjeux de l'environnement dans la zone du Sahel, ce sera porté par le président du Burkina Faso. G7, G20, il va falloir sûrement trouver une nouvelle manière d'organiser ces grands messes, mais il y a quand même une contradiction à fustiger les dirigeants qui veulent se replier sur eux-mêmes et critiquer les sommets qui permettent quand même de prendre conscience des évolutions internationales. Alors peut-être parce que la voix de la France, la voix de l'Europe affaiblie n'imprime pas, peut-être que la France ne se fait plus assez entendre, alors ça crée peut-être des frustrations. Enfin, des Européens qui ont quand même profité de la réunion d'Osaka au Japon pour parler en coulisses de leurs propres problèmes, hein, pour trouver un dirigeant à la Commission de l'Union Européenne. Il y a eu des apartés, des conclaves entre délégations, car le temps presse, on a vu, il n'y a toujours pas donc de fumée blanche. Comme quoi Emmanuel Macron a beau jeu de critiquer l'efficacité du G20, parce qu'au moins, ils ont pu discuter de leur sujet. Ça prouve quand même que si on n'arrive pas à se mettre d'accord, eh bien, il y a quand même une utilité à continuer à parler.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. Et tout de suite, on passe à l'économie. Avec vous, mon cher Axel de Tarlé, l'Union européenne signe un grand traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. Alors, les pays du Mercosur, on va les citer. Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, tous réunis sous un même son, chapeau à Europe 1. Le son intitulé Amérique latine au sens large. Un traité dénoncé par les agriculteurs et les écologistes, Axel de Tarlé.
On parle quand même d'un traité qui va rassembler 800 millions de personnes et voilà comment vous le ridiculisez, Mathieu.
Je n'ai pas ridiculisé le traité, voilà. J'ai ridiculisé les sons d'Europe. Hein.
Et justement, et ce traité, il est intéressant parce qu'il va à rebours de ce que vous expliquiez. C'est-à-dire que le G20, vous voyez, dans ce monde protectionniste où on s'envoie des droits de douane à la figure, eh bien, l'Union européenne a voulu montrer qu'elle était encore capable de signer de grands traités de libre-échange. Alors effectivement, avec les pays du Mercosur. Donc certains secteurs, en tous les cas, se frottent les mains à cette idée qu'il n'y aura bientôt plus de taxes vers les pays d'Amérique du Sud. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que des secteurs comme le vin sont taxés à 27%, l'automobile jusqu'à 35% de taxes, l'habillement 35% de taxes. Donc il y a énormément de secteurs qui se disent, bah voilà, l'Amérique du Sud va devenir pour nous un grand marché. Et à revers, vous avez effectivement des secteurs qui s'inquiètent, et notamment les agriculteurs. Les agriculteurs qui s'inquiètent de voir l'Europe envahie et par des produits qui ne respectent pas les mêmes normes sanitaires telles que les OGM, les hormones, évidemment, c'est toujours pareil. Les pesticides, les antibiotiques, etc. Et surtout, vous avez parallèlement les écologistes qui disent, alors on nous fait de grands discours contre les émissions de CO2, et là on va rajouter des marchandises sur des paquebots qui vont sillonner l'Atlantique pour aller entre le Brésil et la France et dans les deux sens, etc. Et puis surtout, on signe un accord avec un pays, le Brésil, dont le président n'est autre que M. Bolsonaro, qui a voulu sortir des accords de Paris et qui a dit, moi, l'Amazonie, il faut le plus important, c'est de faire du business. Alors justement, et c'est pour ça qu'on a signé cet accord, c'est que Jair Bolsonaro s'est engagé, du coup, pour signer cet accord, à respecter les engagements, le traité de Paris, alors que vous savez qu'il était à deux doigts de rejoindre Donald Trump sur la question, donc c'est ce qu'on a sauvé. Et puis deuxième chose, il y a tout un chapitre dans cet accord sur le développement durable, on s'engage à respecter les droits des travailleurs, des comportements responsables, etc., et la conservation de la forêt. Voilà.
Et alors l'Europe a déjà signé un accord de libre-échange avec le Canada, le CETA,
voilà,
le fameux CETA.
On en avait beaucoup parlé.
Est-ce qu'on peut déjà en mesurer les conséquences ?
Ben oui, parce que cet accord, il est entré en vigueur à titre provisoire, parce qu'il n'a pas encore été ratifié par tous les pays, en 2017, et oui. On voit d'ailleurs que ça n'a absolument pas été la catastrophe annoncée, que finalement, d'ailleurs, nous, on en profite et on n'est pas envahis de produits canadiens, mais les agriculteurs font quand même valoir que les méthodes agricoles du Brésil sont beaucoup plus musclées. Ils parlent véritablement d'usines à viande. Et vous avez Greenpeace qui dit qu'il y a 239 pesticides autorisés en Brésil, dont un tiers sont interdits en France. Ça va être compliqué de surveiller tout ça.
Effectivement. Merci beaucoup. Axel de Tarlé. Eva Roth, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
Un documentaire et un film ce soir. Je vous propose de débuter par un doc, donc très personnel, qui est filmé la plupart du temps avec un smartphone. C'est l'histoire vraie de Baptiste. Il est journaliste de guerre, il a une trentaine d'années. Et quand il revient à Paris, son quotidien, c'est plutôt sexe, drogue et alcool. Et depuis plusieurs années, en fait, il s'autodétruit. Jusqu'au jour où des souvenirs d'enfance remontent à la surface. Souvenir d'un viol commis par son maître nageur. Il avait alors 4 ans. Et la psy qui le suit lui explique le mécanisme psychologique qui s'était mis en place.
Vous avez eu un stimulus qui vous a reprojeté dans le passé. En fait, c'est comme si le corps était quelque part le garant du traumatisme que vous avez vécu. Donc votre corps a relivré cette mémoire-là à ce moment-là, parce qu'il y a eu les conditions, si vous voulez, pour que ça se redéclenche.
Alors à travers ce documentaire, auquel Libération consacre une page entière ce matin, ce qui est plutôt rare, Baptiste raconte son long cheminement, alors d'abord pour sortir de ce cauchemar, retrouver l'homme qui lui a fait ça, la scène des retrouvailles est d'ailleurs extrêmement forte. Une des ambitions d'un documentaire, généralement, c'est d'établir un caractère universel à partir d'un cas particulier, eh bien Apnée, c'est le titre de ce documentaire, il parvient, c'est à voir ce soir à 23h35 sur France 3. Mais, pour un peu plus de légèreté, Mathieu, et puis débuter votre soirée avec avec le sourire, vous vous branchez sur Arte pour une comédie d'Yves Robert avec Philippe Noiret. Il est agriculteur, récemment veuf, et il s'appelle Alexandre. Il a décidé de ne plus rien faire et de rester couché 2 mois. Son meilleur ami est un chien, dialogue entre eux.
Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Toujours dans mes jambes, toujours à me renifler, à pousser du museau, à faire le guet. Oui, je bouge, tu dors couché en rond, je m'arrête pour attendre, te voilà en arrêt à renifler le vent. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Toi aussi, il faut que tu remues, tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? On a le temps, faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps.
Alexandre le Bienheureux ou l'éloge de la paresse, de la contemplation de la liberté, ce film sorti en 1967, quelques mois avant les événements de 68, est un régal. Alors, par sa thématique, évidemment, la prestation incroyable de Noiret, qui est très bien entourée, hein. Marlène Jobert, Pierre Richard ou encore Jean Carmé, et le chien, qui est absolument formidable. C'est une ode à la vie qui devrait vous convaincre du bien fondé de ne rien faire en cette veille de vacances. C'est plutôt une bonne idée.
Je vais pas être très difficile
sur France
à convaincre.
3.
Merci beaucoup, Eva Roque. Merci, Mickaël Darmon, Axel de Tarlé. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine, mais vous le savez, le meilleur est à venir, le débrief de la matinale. Matinale qui, la semaine dernière, a été clairement la plus réactive de toutes les radios pour vous informer en temps réel et dans le détail sur l'alerte canicule. C'était vraiment au millimètre.
Vague de chaleur, est-ce que ça va changer? Merci.
Le meilleur est à venir, le débrief de la matinale à suivre.
Il est 6h53. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains touche à sa fin, mais à l'heure de passer le micro à Pierre de Villeneuve aujourd'hui pour la matinale d'Europe 1, j'aimerais saluer celle qui, de 5h à 9h, reste la courroie de transmission, la poutre maîtresse de votre réveil radiophonique, la besogneuse mais toujours rieuse Céline Dacosta. Notre soleil lisboète. Ravi ce matin de retrouver Pierre de Villeneuve, le joker officiel de Nikos Aliagas. Ouais. Même si elle avait fait la semaine dernière un accueil très chaleureux à Sébastien Krebs, la doublure du remplaçant du joker de Nikos Aliagas.
Qui êtes-vous, monsieur? Moi, je travaille avec Nikos Aliagas, d'abord.
Ouais, c'est très sympa, vous vous sentiez bien à l'aise. Donc, Céline est ravie de vous retrouver, Pierre, d'autant qu'aujourd'hui n'est pas une journée comme les autres. C'est un peu votre journée, puisque le 1er juillet, c'est la journée mondiale du reggae. Une musique qui, visiblement, en tout cas vos conversations en antenne, vous tient à cœur.
Ça t'irait bien, toi, les dreadlocks? Est-ce que tu aimes Bob Marley?
Ma chère Céline, un petit pétard?
Oui! Attention quand même, Pierre, je crois que le studio est équipé de détecteurs de fumée. Céline, ne tirez pas là-dessus, vous allez vous mettre à raconter n'importe quoi, ça va être gênant pour tout le monde. Non, non, Céline, non.
On se touche pas assez.
On se touche pas assez, non mais je vous en prie, ce sont vos fils qui se touchent, Céline. Bref, oui, Céline Dacosta, personnalité si pittoresque, si franchement désinhibée, qu'une expression est même née au cours de la saison, faire sa Dacosta. Exemple, lorsque Pierre de Villeneuve présente la matinale avec Anissa Haddadi, la remplaçante de Céline.
Je suis boulanger. Je fais des baguettes.
Ah, tu vas pas faire ta Dacosta, hein.
C'est devenu une expression consacrée. Alors reprenons-nous, vous avez quand même une matinale à présenter, Pierre. Vous voyez à peu près où on en est, Pierre? Vous avez écouté le 5-7?
C'est un peu l'antichambre des pros, si je comprends bien.
Bon, l'antichambre des pros, je vous en prie, d'un point de vue salarial peut-être, mais je crois que sur le fond, on n'a pas à rougir. Et puis je vous souhaite bon courage en cette fin de saison. Les chroniqueurs de la matinale sont de plus en plus intenables, surtout Laurent Cabrol.
Soleil de mon pays si beau.
Superbe.
Faites ce que vous voulez de votre corps et de vos vêtements.
Mais surtout, surtout Pierre, ne chauffez pas Laurent Cabrol.
Ne me poussez pas dans mes retranchements.
Oui.
Si jamais je peux vous faire un coup de James Brown.
Il pourrait vous faire un coup de James Brown. Et oui, James Brown, pire que James Brown. Et j'oubliais avant de partir, vous fêtez la journée du reggae comme vous voulez, mais oui. Pas de bœuf pour Nicolas Barré. En aucun cas, au lycée, une fois, il avait essayé, enfin, on l'avait forcé, ses potes lui avaient roulé un six-feuilles avec les pages saumon du Figaro. Le résultat était moche, très moche.
Je suis à bord d'Air Force One, en route pour sauver le monde libre.
Oui, mais non, pas de pour Nicolas Barré. Hein.
Merci Mathieu Noël, on vous retrouve demain.
Bonne journée à vous.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.